Bien, bonjour. Merci Thomas pour m'avoir invité à parler d'actualisation. Alors, on n'est pas totalement synchronisé. Je n'ai pas les mêmes notations que toi et je crains malheureusement qu'il y aura plus de mathématiques qu'avec toi. Enfin, je passerai assez rapidement là-dessus. Mais il y a un problème de coordination et comme vous savez, les problèmes de coordination sont les problèmes les plus importants en économie. Mais c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais je ne vous parlerai pas de ça, mais mon titre indique « Intuition écologique contre raison économique ». Et ce qu'il y a derrière, je vais vous l'expliquer, mais Thomas vous l'a déjà expliqué d'une certaine manière, c'est évidemment lié au taux d'actualisation. Alors, d'abord, la raison économique et développement durable. Alors, pourquoi en écologie doit-on solliciter les économistes ? D'abord, premièrement, la raison, c'est qu'ils s'estiment compétents. Dans tous les cours d'économie à l'université, il y a un cours d'économie de l'environnement, il y a un chapitre, c'est un chapitre classique du cours. Et dans ce chapitre d'économie de l'environnement, les économistes analysent des phénomènes qui sont évidemment des phénomènes environnementaux, dont un des thèmes principaux aujourd'hui est le problème climatique. Alors évidemment, tout ne s'ajuste pas automatiquement au problème climatique, mais il y a évidemment toute une capitale de réflexion sur les problèmes environnementaux. Deuxième raison, c'est qu'ils sont appelés à se prononcer. Et là, je vous ai mis sur j'ai mis l'intitulé, une partie de l'intitulé du principe de précaution. Le principe de précaution tel qu'il est énoncé dans la loi Barnier et qui nous dit que l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, je remplisse à peu près ça, hein, ne doit pas retarder l'adoption de mesures appropriées visant à prévenir des dommages graves et irréversibles à l'environnement. Alors vous allez me dire, c'est assez général, c'est pas extraordinairement clair en matière climatique, parce que qu'est-ce que sont les mesures appropriées ? Est-ce qu'on doit arrêter d'émettre du gaz carbonique immédiatement, dans 10 ans, dans 20 ans, quand on l'aura décidé la COP21 ? C'est pas extraordinairement clair. La loi Barnier ajoute, mais c'est vrai dans toutes les formulations du principe de précaution, qu'elles soient en français ou en anglais c'est cause effective majeure, la loi Barnier ajoute à un coût économique acceptable. Donc vous voyez la satisfaction des économistes qui pensent que la balle est revenue dans leur camp. Et donc le problème, l'absence de certitude, c'est vraiment quelque chose qui est clair en matière climatique, hein. Des dommages graves et irréversibles à l'environnement, ça qualifie aussi bien sûr le problème climatique. Mais alors, qu'est-ce que le coût économique acceptable ? Eh bien, pour ce faire, les économistes ont fait ce qu'ils font habituellement, c'est-à-dire du calcul économique. Et en particulier, il y a du calcul économique fait depuis longtemps par Bill Nordhaus, comme tu l'as dit tout à l'heure, Thomas. Et il y a eu un rapport qui est un calcul économique généralisé sur le problème climatique dû à Nicolas Stern, qui a été titulaire de cette chaire il y a quelques années. Et ce rapport Stern fait du calcul économique standard, c'est-à-dire qu'il met d'un côté les coûts de lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire le changement de technique, le changement de technologie, etc., l'accroissement de prix d'un certain nombre de produits, etc. Et de l'autre côté, les bénéfices d'une politique climatique vigoureuse, et les bénéfices, c'est tous les dommages évités. Alors, je ne vais pas revenir sur le rapport Stern, ça prendrait largement une heure, et voire 10 heures si l'on veut, mais il y a évidemment une grosse difficulté qui consiste à évaluer les dommages futurs et à les monétariser. Évaluer les dommages futurs, par exemple pour l'agriculture, ça, c'est pas trop difficile, parce que c'est pas trop difficile encore que ce que nous a dit Thomas montre que c'est quand même moins facile que ce qu'on peut penser, mais c'est un bien marchand. Il a un prix. Si vous avez moins de blé, vous devez tenir compte du prix du blé. S'il y en a beaucoup, beaucoup moins, du prix nouveau du blé qui va émerger, etc. Mais ça, on est encore dans des cas traditionnels. Maintenant, comment monétariser la souffrance des réfugiés climatiques, hein, il pourrait évidemment avoir des centaines de millions de réfugiés climatiques, on le sait. Comment imaginer les difficultés, comment monétariser les difficultés des sociétés d'accueil, etc. Donc c'est un exercice extrême, fait avec beaucoup de soin, extrêmement ambitieux, mais dans lequel un paramètre assez essentiel est le taux d'actualisation. Les coûts sont aujourd'hui, les bénéfices sont en grande partie demain, ça peut être dans deux, dans trois siècles, etc. Et dans le calcul économique standard, dans le calcul économique fait par Nicolas Stern, il y a un taux d'actualisation qui est pris pour ramener chaque valeur future à sa valeur actuelle. C'est ça l'actualisation. Voilà pourquoi il y a la raison économique apparaît en filigrane dans notre problème. Là, je vais reprendre des choses qui ont été dites, mais je l'ai dit à ma manière, mais qui ont été dites par Thomas. Nous ne sommes pas parfaitement coordonnés à nouveau. Donc, le calcul économique écrase l'avenir. Dépenser 1 euro aujourd'hui doit créer un bénéfice avec un taux d'actualisation de 10%, de 120 dans 50 ans, 14 000 dans 100 ans. Alors là, c'est la logique exponentielle. C'est le papier plié que Thomas n'a pas réussi à plier 40 fois, mais seulement 3 fois. Donc, il y a cette logique exponentielle. Donc, avec un taux d'actualisation de 7%, aujourd'hui, il faut un peu moins de 30 dans 50 ans pour que ce soit rentable, 860 dans 100 ans. Avec un taux d'actualisation de 2%, il faut 2,7 dans 50 ans, donc un peu plus de 2%, de 2, et 7,3 dans 100 ans, et 52 fois dans 200 ans. Dans le rapport CERN, alors quel taux d'actualisation on a pris dans le rapport CERN? On a pris un taux d'actualisation de 1,4%, qui est beaucoup plus faible que les taux considérés dans la littérature théorique, par exemple par Nordhaus, ou dans la littérature un peu plus, sur des modèles beaucoup plus simplistes et beaucoup moins complets. Mais les dommages du rapport Stern sont 50 fois plus élevés, tels qu'on les mesure, la valeur actuelle des dommages est 50 fois plus élevée avec un taux de 1,4% qu'avec 5%, qui est le taux pris par Nordhaus. Vous voyez donc là, il y a un sujet de débat. Il y a une variable tout à fait essentielle. Thomas a dit beaucoup de choses là-dessus. Je vais reprendre une partie des choses en allant plus loin, une partie des choses qu'il a dites, en parlant du problème tout à l'heure des prix relatifs. Alors, il y a d'autres dimensions importantes auxquelles je ferai assez peu allusion, qui sont la nature du risque climatique. Mais ça demanderait aussi un sujet. Alors, je vais reprendre maintenant, puisque j'ai dit qu'il y a d'un côté l'intuition écologique et de l'autre côté la raison économique. Alors, l'intuition écologique, eh bien, c'est qu'avec ces taux d'actualisation élevés, vous sacrifiez des objectifs essentiels à des intérêts secondaires. Ça reflète l'égoïsme des générations en place, qui est éthiquement inacceptable. Alors, quel est ce à quoi la raison économique rétorque les choses suivantes. Le taux d'actualisation, dans une certaine mesure, c'est un arbitrage objectif entre aujourd'hui et demain. S'il y a des taux d'intérêt sur le marché de 3%, vous pouvez transférer de 4% en termes réels, vous pouvez transférer des consommations aujourd'hui sur des consommations demain. Le taux d'intérêt de marché est un taux qui permet d'échanger entre les, dans la mesure où vous avez accès à ce marché, comme les entreprises l'ont, qui permet d'échanger entre les périodes au taux impliqué par le taux d'intérêt émergent sur le marché. Deuxièmement, il souligne justement qu'il est inutile de faire des sacrifices aujourd'hui pour nos descendants qui seront, entre guillemets, alors la question a été évoquée et examinée de façon très critique par Thomas, moi je suis beaucoup plus sommaire là-dessus, qui seront beaucoup plus riches que nous. Et là, c'est la formule de tout à l'heure. Alors, R, le taux d'actualisation. Alors là, je prends un point de vue normatif. J'aime bien être le dictateur bienveillant gouvernant le monde, mais on ne l'a jamais proposé, et si on me le proposait, je refuserais, bien entendu. Mais là, je me place du point de vue du dictateur bienveillant. G, c'est le taux de croissance. Alors, je fais l'hypothèse qu'il est constant. Sigma prime, c'est ce que tout à l'heure était appelé A, puis gamma, ça a varié un petit peu, c'est l'élasticité de l'utilité marginale, c'est-à-dire ça mesure la satiété. Si sigma prime est élevé, ça veut dire qu'on augmente beaucoup la consommation, mais ça m'intéresse que relativement peu. Donc pour les générations, c'est la mesure de la satiété pour les générations futures. plus delta. Alors delta s'appelait aussi autrement, il s'appelait rho dans la présentation précédente. C'est le taux de préférence pure pour le présent. Alors là, comme je suis du point de vue du dictateur mondial bienveillant, alors ça, cette formule, elle peut valoir pour chacun d'entre nous. Mais le fait qu'elle donne un taux d'actualisation différent pour chacun d'entre nous ne veut pas dire qu'il n'y a pas de taux d'actualisation pour la société, ne serait-ce que parce qu'il y a des taux d'intérêt qui, étant donné ces taux d'actualisation personnels, vous allez prendre des actions qui sont en concordance avec votre taux personnel et ce que vous pouvez faire sur le marché. Mais maintenant, moi, de mon point de vue humanité, je prends la taux de croissance de la consommation, sigma prime, la mesure de la satiété, l'élasticité de l'utilité marginale, plus delta, le taux de préférence pour le présent. Alors, comme je suis un dictateur bienveillant, pour delta, je vais prendre quelque chose de très faible. Je vais prendre quelque chose qui est de l'ordre de la probabilité de destruction de la planète. Probabilité uniforme liée au fait qu'il peut nous tomber sur la tête un astéroïde non prévu à chaque moment. Donc je ne mets pas exactement égal à zéro, mais très proche de zéro. Alors maintenant, il y a G sigma prime, mais naturellement, G sigma prime, ça a été expliqué avec beaucoup plus de détails tout à l'heure, il y a des incertitudes sur G, dans lesquelles je ne vais pas entrer, mais G, grosso modo, pour là, on peut penser que dans le siècle qui vient, on aura 2% de croissance, ça fait partie des 1,5-2%. Sigma prime, ça fait entre 1 et 2, mettons, je le prendrai tout à l'heure, en général égal à 1,5, ça fait quand même des taux d'intérêt de 3%, pour lesquels les 3-4%, pour lesquels on écrase le futur à un point qui rend relativement douteuses les politiques vigoureuses de lutte contre le changement climatique. Alors, on peut réconcilier les deux argumentaires précédents, c'est-à-dire l'intuition écologique et la raison économique, si le calcul économique des biens environnementaux, et là aussi j'enchaîne sur ce qu'a dit Thomas, est convenablement conçu. Alors, donc il y a trois points d'achoppement du raisonnement. J'ai marqué quatre ici, mais ce quatrième a sans doute disparu. La préférence pour le présent, mais là, je mets dans l'hypothèse les préférences pures pour le présent. Quand on regarde les taux d'actualisation personnels des gens, la préférence pure pour le présent a des valeurs beaucoup plus fortes, que pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Ça pourrait être, par exemple, la préférence pure pour le présent peut simplement refléter votre probabilité que vous soyez en vie à l'instant T que vous considérez, etc. Bon, donc là, on va le laisser dans l'ombre et on va faire l'hypothèse qu'il y a une préférence pure pour le présent qui est pratiquement nulle. C'est-à-dire qu'on est très altruiste vis-à-vis des générations futures, au sens où si elles sont dans la même situation que nous, on prend des taux d'intérêt extrêmement faibles pour considérer les transferts qu'on va leur faire. Deuxièmement, c'est un point aussi qu'a donné Thomas, c'est il y a beaucoup de biens dans l'économie, et il faut tenir compte non seulement du taux d'actualisation, mais des prix relatifs de ces biens par rapport aux biens standards, aux biens agrégés qui est derrière l'idée de taux d'actualisation. Et donc, la question des biens environnementaux, c'est qu'ils ils sont pas comme les autres, on va y revenir. Donc, c'est la finitude des biens environnementaux. Et la troisième dimension qu'il faut prendre en compte, c'est la substituabilité. Alors, je vais revenir sur chacun de ces points. Ah. Non, je vais sans doute y arriver. Alors, d'abord, les biens environnementaux. Je suis assez vague. Les biens environnementaux, je vais rester assez vague. Je ne vais pas m'aventurer dans le secteur climat ou qualité du climat. C'est une des variables que j'ai en tête. Mais je vais rester relativement vague. Je parle un petit peu de la valorisation du capital naturel, en quelque sorte, ici. Donc, un bien environnemental, c'est capital naturel. À la différence des biens privés, ils ne peuvent être multipliés sans limite. L'optimisme moderne, qui est un petit peu douché ces temps-ci, nous laissait croire qu'on peut multiplier sans limite les biens. Et Kenneth Arrow, j'ai appris ça, est toujours aussi optimiste sur ce point, avec évidemment la question de la mesure des consommations aujourd'hui et dans deux siècles, puisque les biens ont totalement changé de nature, etc. Bon, mais un autre problème là-dessus. Ils sont différents des ressources non renouvelables. Parce que les ressources non renouvelables, elles sont détruites. Le charbon, le pétrole, c'est des ressources non renouvelables, elles sont détruites. Eh bien, le capital naturel n'est pas détruit si on en fait un usage prudent. Donc, ils sont disponibles en quantité limitée, on ne sait pas les produire, ou vraiment tout à fait à la marge. Si on prend le capital naturel, on ne sait pas réellement le produire, juste à la marge. Il y a une formule célèbre que j'ai souvent reprise, que je crois qui est due à Stiglitz, nous n'avons qu'une planète. On sait pas, jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas fabriquer de planète artificielle qui nous permettrait d'aller ailleurs si on avait des difficultés. Donc, dans le long terme, la rareté relative de ces biens va s'accroître constamment. Les biens environnementaux, mon capital naturel que j'ai ici, si les biens standard se multiplie, il va être en quantité de plus en plus faible. Et donc, le prix relatif va augmenter. Alors, à nouveau, il faudra avoir deux taux d'actualisation, le taux d'actualisation standard et ce que j'appelle le taux d'actualisation écologique, qui s'applique aux biens naturels, c'est-à-dire qui consiste à voir quel est le bon taux d'échange entre aujourd'hui et demain, entre aujourd'hui et dans un siècle, entre le capital naturel à ces époques-là. Voilà. Et donc, à l'arrière-plan, il y aura deux questions qui sont importantes. La première, c'est la substituabilité entre le bien environnement et le bien standard. À nouveau, si j'étais capable de fabriquer une planète artificielle, la question se poserait différemment. Si avec beaucoup plus de biens standards, je peux compenser totalement les inconvénients du fait qu'il y ait un capital naturel plus faible, ça va changer la donne dans l'évaluation de ce capital naturel. Et puis, j'ai dit aussi, il y a une considération éthique qui est liée au taux de pur de préférence pour le présent. Si vous êtes une des conclusions que moi je tire de cette analyse, c'est que si on est vraiment égoïste et si on se moque des générations futures, l'argument pour une politique climatique vigoureuse est assez faible. Bon, alors là, je vais essayer de passer assez vite là-dessus, mais bon, grosso modo, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'actualisation standard, c'est quelque chose qui donne des taux d'équivalence entre aujourd'hui... Alors, moi, je me place du point de vue de la société. À nouveau, on peut se placer du point de vue des individus. Le lien entre le point de vue social et le point de vue des individus, il faut le regarder dans des modèles plus complexes que ceux que je vais proposer aujourd'hui. Mais le taux d'actualisation standard, j'abandonne une unité de bien privé aujourd'hui et je donne un plus R à la période suivante. Alors moi, je vais me mettre dans un monde où chaque période, c'est une génération. Je vais prendre un modèle dans lequel chaque période, il y a une génération. Et je ne mets pas donc, il n'y a pas de croissance de la population en un certain sens. Donc je passe le problème qu'évoquait tout à l'heure à juste raison. Je le passe sous silence. Et donc, un taux d'actualisation, c'est quelque chose qui me dit, c'est abandonner une unité de bien privé et donner un plus R à la période suivante, c'est socialement équivalent. Le taux d'actualisation écologique, c'est baisser de 1 unité la qualité environnementale de la génération T, l'augmenter de 1 plus B pour la génération suivante, c'est socialement équivalent. C'est-à-dire que c'est le taux auquel on peut faire ces échanges de façon que ce soit socialement équivalent. Alors, le calcul économique associé, c'est qu'une unité de richesse privée qui est apportée à T plus 1 a une valeur actuelle, une valeur à T, qui est égale à 1 sur 1 plus R. C'est exactement la même chose, dit autrement. Et donc, on investit si le coût est inférieur à 1 sur 1 plus R. Le calcul économique écologique nous dit qu'une unité de qualité, si je peux modifier la qualité du bien environnemental, apporté à T plus 1 a une valeur actuelle de 1 sur 1 plus B, unité de qualité. Et donc, je fais l'investissement sur 1 sur 1 plus B multiplié par C. Alors, qu'est-ce que c'est C? C'est le consentement à payer pour une unité de qualité écologique. Ça donne la valeur marchande du bien écologique à un moment donné. Je monétarise là aussi. Je fais comme Nicolas Stern et comme les économistes font habituellement. Si 1 sur 1 plus B, C, est supérieur au coût de l'investissement qui me donne une unité de qualité supérieure. Donc, c'est des règles de calcul économique que j'ai données ici. Alors là, je vais passer là-dessus, mais si vous voulez entrer dans la logique analytique, c'est le point tout à fait essentiel. J'essaie de voir la relation qu'il y a entre le taux d'actualisation standard et le taux d'actualisation écologique. Et là, j'ai la base du raisonnement que je vais Je mets au voisinage une trajectoire. Cette trajectoire est optimale pour la société. Donc, et au voisinage de cette trajectoire, le consentement à payer à l'époque T pour le bien écologique est grand C. Et je vais regarder les deux opérations suivantes. Je regarde mentalement les opérations suivantes. J'abandonne C unité de bien privé. À la période T, je donne 1 plus R grand C à la génération suivante. Je suis dans une solution qui est socialement neutre. Je transfère avec les taux d'actualisation qui sont implicites à la situation que je considère que je suppose optimale. Alors, deuxièmement, je peux transférer une unité de qualité d'environnement de la génération T, alors c'est une opération mentale, pour donner une unité 1 plus B à la génération suivante, où B est le taux d'actualisation écologique tel que j'ai déterminé ici. À nouveau, cette opération est neutre socialement, par définition du taux d'actualisation écologique. Mais ces deux opérations, elles sont absolument équivalentes pour le bien-être en T. Elles sont équivalentes du point de vue social, toutes les deux. Elles sont équivalentes pour le bien-être en T, puisque je transfère une unité d'environnement de la génération T qui vaut pour elle C unité de bien privé. Donc elles sont absolument équivalentes pour le bien-être en T. Elles doivent être équivalentes pour le bien-être en T plus 1, puisqu'elles sont toutes les deux socialement équivalentes. Elles sont toutes les deux équivalentes en T. Elles doivent être toutes les deux équivalentes en T plus 1. Ben, j'écris simplement ça. Ça fait 1 plus B, C' égale 1 plus R, C, où C' est le consentement à payer pour le bien environnemental de la génération T plus 1. Et alors, je dis que C', eh bien, il croît avec un coefficient. Alors, G, c'est comme le G de professeur Sterner tout à l'heure. Ce consentement à payer dépend de la croissance de la consommation des biens privés, ce qui est normal, multiplié par un coefficient petit a, multiplié par grand C. Et puis, j'écris simplement ce que je viens de dire tout de suite, c'est-à-dire 1 plus B, 1 plus AG, C égale 1 plus RC. Et ça vous donne que B égale R moins AG, c'est-à-dire que le taux d'actualisation écologique va être égal au taux d'actualisation standard moins un certain coefficient, alors je vais revenir sur ce qu'est ce coefficient tout à l'heure, multiplié par le taux de croissance de la consommation. Et ce coefficient est en général positif, donc le taux d'actualisation écologique est plus faible que le taux d'actualisation standard. Alors là, je vais... essayer d'oublier, je vais donner un petit peu, je vais mettre dans un monde simplifié, c'est le monde du modèle, mais je vais vous expliquer en quoi consiste ce monde. Ce monde du modèle, c'est dans lequel je suis assez à l'aise pour jouer le rôle de dictateur bienveillant. Il y a autant de générations qu'il y a de périodes, elles se succèdent. Et il y a deux biens dans l'économie, il y a un bien de consommation agrégé, que j'appelle, dont la quantité est petit x, et il y a la qualité environnementale que j'appelle Y, ou le volume du capital naturel que j'appelle Y. Et je vais faire deux choses. Alors, s'il n'y avait pas de bien environnemental, j'aurais... Vous voyez la deuxième formule qui est ici, j'ai pas de... Bon. Tu as un...
Ah, d'accord.
C'est là, d'accord. Vous voyez la deuxième formule qui est ici, vous enlevez le Y, c'est V de XT égale à, ça c'est un coefficient sur 1 moins sigma prime, V de XT à la puissance 1 moins sigma prime. C'est le coefficient qui s'appelait A tout à l'heure. C'est le coefficient qui mesure la satiété, c'est l'élasticité de l'utilité marginale. Sigma prime est élevé, ça veut dire que vous appréciez relativement, vous aimez consommer plus demain, mais vous appréciez relativement le gain que vous avez à cette consommation plus élevée et plus faible. Ça mesure l'aversion au risque, ça mesure la satiété. C'est-à-dire, sigma prime est élevé, on est rassasié. Là, j'ai aussi Y. Et alors, Y, je vais le faire entrer. Et ce que je fais entrer, c'est une fonction de XT et de YT. Et la fonction que je fais entrer, au lieu que ce soit la fonction simplement de XT tout à l'heure, qui était l'utilité qui serait XT, par exemple. Hein, pardon, oui, tout à l'heure, ce que j'ai dit était valable si au lieu de V de XT, j'empruntais XT. Là, j'ai une fonction qui s'appelle une fonction d'élasticité de substitution constante, dans laquelle vous avez la quantité de biens privés, la quantité de biens environnementaux, et tout ça avec des coefficients un peu compliqués. Le commentaire, cette fonction a. Alors, c'est pour le plaisir des mathématiques, mais elle a une propriété très simple, c'est que sigma, le coefficient que vous avez dans cette fonction, décroît, est tel que si y sur x décroît de 1%, hein, c'est-à-dire soit par exemple x croît de 1%, soit y décroît de 1%, bien, le consentement à payer, alors à chaque fois, là au voisinage, vous êtes dans un système dans lequel, comme l'aiment les économistes, hein, pour le bien environnemental, on peut définir le consentement à payer, c'est-à-dire on peut définir ce que la société est prête à payer pour qu'il ne diminue pas d'une unité. Ça s'appelle le consentement à payer. Donc ça, c'est la en quelque sorte la monétarisation du bien environnemental. Bien, si y sur x décroît de 1%, parce que, par exemple, la quantité de biens environnementaux décroît de 1%, parce que la quantité de biens standards, ça croît de 1%, alors le consentement à payer, ça croît de 1 sur sigma pour cent. Donc, si sigma égale l'infini, eh bien, à ce moment-là, le bien privé et le bien environnemental sont totalement substituts. C'est x plus y. Comme vous le voyez en regardant la formule, si vous mettez sigma égale l'infini dessus. Mais ce n'est peut-être pas évident. Et donc, il y a 1 sur sigma, c'est 0. Le consentement à payer ne va pas changer. Le consentement à payer, s'il est lié au taux de substitution entre le bien environnemental et le bien privé, qui sont l'utilité étant linéaire dans chacun des deux. Si sigma égale 0, ben sigma égale 0, et quand la quantité de bien environnemental diminue, eh bien, le consentement à payer, ça croît de une infinité de pourcents, un milliard de pourcents. Alors là, on est dans un cas dans lequel le bien-être de la société est le minimum de la quantité de biens privés et de la quantité de biens environnementaux. Si vous diminuez un peu la quantité de biens environnementaux, ben, le fait qu'il y ait, et que vous augmentez la quantité de biens privés, ça n'a aucun intérêt. Vous êtes prêt à payer une infinité à la marge, hein, en termes de biens privés, pour augmenter la quantité environnementale. Donc, il y avait les deux cas. Et donc, le paramètre sigma mesure ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est extrêmement important dans cette affaire, c'est-à-dire la substituabilité entre le bien environnemental et les biens privés. C'est-à-dire notre capacité, en termes climatiques, hein, les mérites de l'adaptation, jusqu'où l'adaptation peut-elle, jusqu'où l'accroissement de biens privés peut-elle se substituer aux dégradations climatiques. Je reste un tout petit peu vague là-dessus. Et puis alors, comme je suis dictateur mondial, ben, j'ai une fonction de bien-être que je suis prêt à annoncer, hein, qui est que je fais la somme des utilités de toutes les générations, en mettant, malgré tout, exponentielle moins delta t, qui est donc voilà la fonction. Donc ça veut dire que j'ai un coefficient pur de préférence pour le présent. Et je vous ai dit, je prendrai égal à la probabilité que la Terre survive, probabilité estimée. Je ne sais pas à combien elle est estimée, mais enfin, je le prendrai très proche de zéro. Alors, le premier point de vue que je vais prendre, je vais mettre au voisinage une trajectoire. Dans ce monde, je vais prendre une trajectoire. La qualité environnementale va être fixée, bouge pas. Et les biens privés vont croître à un taux G que je prends de façon complètement arbitraire. Et je vais regarder, je vais mettre l'accent sur le long terme. Alors, ce qu'il faut bien voir, ce qu'il y a de surprenant, mais qui est amusant du point de vue mathématique, mais un petit peu gênant, c'est qu'il y a une sorte de discontinuité. Quand sigma est plus grand que 1, le monde ne ressemble pas à ce qu'il est quand sigma est plus petit que 1. Discontinuité limitée, parce que le long des trajectoires, comme je le dirai tout à l'heure, il y a une certaine continuité, mais il y a une discontinuité dans la limite, qui est le problème que je vous soumets, parce qu'il est assez amusant. Alors, donc je vais faire deux hypothèses. Comment je vais choisir sigma ? Ben moi, je vais écouter les gens dans la rue et je vais voir un petit peu. Je vais prendre d'abord le point de vue de l'écologiste modéré. Le point de vue de l'écologiste modéré, il met sigma plus grand que 1. Et puis je vais prendre le point de vue de l'économiste radical qui met sigma plus petit que 1. C'est-à-dire que la substituabilité entre biens privés, etc., est plus petite que 1. Alors, si je prends le point de vue de l'écologiste modéré, alors le taux de, et je vais mesurer au voisinage de cette trajectoire, j'ai cette trajectoire, j'ai ma fonction d'objectif, je mesure le taux d'actualisation qui fait que cette trajectoire est asymptotiquement optimale. Quel est le taux d'actualisation, le taux d'intérêt qui est implicite, c'est-à-dire le taux auquel je peux transférer du bien privé aujourd'hui et demain, donc le taux d'intérêt que moi, dictateur bienveillant, je devrais annoncer à toutes les entreprises, eh bien ce sera minimum, ce sera G sigma prime plus delta, c'est-à-dire la même formule que tout à l'heure que Thomas avait présentée. Et je mets minimum parce que si je ne suis pas sûr, j'ai le droit de mettre minimum ici. Enfin, il faudrait être un peu plus précis. Donc, l'écologiste modéré a un taux standard qui est le taux standard habituel, celui qu'on a mis en exergue, ce n'est pas très étonnant. Et le taux écologique de long terme, c'est G sigma prime, comme tout à l'heure, moins G divisé par sigma. Je vous ai dit que c'était le taux d'intérêt standard moins RG. A, c'est 1 sur sigma, ici. Donc, vous voyez que si sigma est, est plus petit que 1, mon taux écologique de long terme pourrait être négatif, mais ça ne marche pas dans les régions où il serait négatif, encore que je ne suis pas sûr que c'est. Mais enfin, vous voyez bien que le taux d'actualisation écologique est plus petit que le taux d'actualisation standard par quelque chose qui est de 1 sur sigma. De G 1 sur sigma. Donc si G égale 3%, 1 sur sigma était égal à 1,5. Moins G sur sigma. J'ai des formules. Bon, on va revenir tout à l'heure sur les formules spécifiques. Et ceci plus delta. Alors maintenant, ça c'est dans le cas où j'ai... je vous donne quand même quelque chose qui est une illustration de ceci, mais c'était le point suivant. Là aussi, j'ai le droit de dire que si je mets de l'incertitude là-dessus, j'ai le droit un peu de dire que j'ai le droit de prendre au minimum. Alors si je prends pour G 1, si je prends pour sigma prime 1,4, et si je prends pour... sigma est plus grand que 1 ici, c'est pour ça que je me plantais tout à l'heure. Si je prends pour sigma un peu plus de 1, vous voyez que ça fait un taux standard écologique de 0,5%, donc bien inférieur à toutes les valeurs du taux d'actualisation qu'on prend dans les... Si maintenant je prends le point de vue de l'écologiste radical, alors le point de vue de l'écologiste radical, c'est simplement le choix de sigma. Étant donné que je choisis sigma, je fais les calculs simplement implicites au fait que je suis sur une bonne trajectoire. Alors le taux standard, c'est G sur sigma plus delta. Et le taux écologique, à ce moment-là, c'est delta. C'est le taux de préférence pure pour le présent. C'est-à-dire que c'est un taux extraordinairement faible. Dans le cas que j'ai donné ici, je ne sais même pas jusqu'où il est. Je ne sais pas sa valeur, mais je sais qu'elle est extrêmement faible. Et c'est vrai, quel que soit sigma plus petit que 1. C'est assez surprenant comme résultat. On voit bien que si sigma égale 0, vous avez le minimum, le bien de la société est donné par le minimum, par la valeur du bien privé, du bien public, du bien collectif, du bien environnemental, en supposant que vous avez plus de biens privés que ce qui est nécessaire pour aller avec le bien environnemental. Alors, on voit bien à ce moment-là que la valeur transférée d'une génération à l'autre du bien environnemental, pour le transférer, la seule chose qui compte, c'est le coefficient. Toutes les générations sont dans le même niveau d'utilité. La seule chose qui va compter, donc le G sigma prime, tout ça, ça disparaît. La seule chose qui va compter, c'est le taux delta, qui c'est le taux d'échange entre les générations qui est convenable. c'est ce que dit ça. Et à ce moment-là, je suis en train de faire un raisonnement sur les taux d'actualisation écologique. Alors ça, c'est évident pour sigma égale 0, que pour sigma compris entre 0 et 1, ce n'est pas du tout évident, mais c'est vrai. Alors là, je viens sur le fait que les personnes qui sont intéressées à ce problème... Ah, je fais des bêtises encore. Donc voilà les premiers articles. Donc là, ce que je dis est lié à ce que j'ai fait, ce que a fait Thomas avec Hall et avec Persson. Il y a aussi des choses faites par Trager. Et je vais parler tout à l'heure le titre que j'ai adopté ici est celui d'un article que j'ai écrit avec Guerin en Afrique qui s'appelle Ecological Intuition versus Economic Reason. Voilà. Alors, de ce que je viens de dire ici, quelles sont les intuitions sur la relation entre co-écologique et politique environnementale? Il y a deux intuitions essentielles. La substituabilité environnement-production privée est au cœur du problème. Dans des sociétés devenant plus riches, la question qui se pose est est-ce que le surcroît de richesse va compenser les pertes environnementales? Naturellement, il y a la question de l'altruisme intergénérationnel. C'est ce que montraient les formules qui étaient ici. Le point de vue adopté est limité sur le plan théorique parce que le taux de croissance est lui-même endogène dans le monde réel. Et pourquoi l'écologiste modéré, par exemple, et l'écologiste radical, je dis que je prends leur point de vue, mais il faudrait que je prenne leur point de vue complètement, c'est-à-dire que j'optimise le monde en faisant l'hypothèse que c'est l'un, que je suis l'un d'abord et que je suis l'autre d'abord, et que je suis l'autre ensuite. Donc que je fasse un dédoublement de personnalité, mais ça ne me dérange pas, c'est ce que je fais habituellement dans les cours. Et voilà. Et naturellement, il y a la question du long terme, au long et au long run. Et donc là, ce que je vais vous raconter, c'est les résultats qu'il y a dans mon papier. J'ai exactement résultats dans mon papier avec Ecological Intuition versus Economic Reason. Et là, on se met dans un monde dans lequel on va optimiser le monde. C'est-à-dire qu'il y a de la production à chaque période. On peut accumuler du capital. Alors, on le fait dans un modèle très simple qui s'appelle le modèle AK, qui sont des modèles de croissance endogène dans lequel la productivité du capital est constante. Bon, je ne vais pas entrer là-dessus. On peut faire une série de cours sur les modèles d'innovation de la nouvelle génération, dans lequel le plus simple est celui-ci. Donc, on se met dans un monde dans lequel, à chaque période, moi, dictateur, je vais décider du niveau d'investissement. Le taux d'intérêt que je vais prendre est donné par la technologie. C'est AK. Je prends comme taux d'intérêt le taux qui rend rentable n'importe quelle opération de production, d'ailleurs, aujourd'hui et demain. Entre aujourd'hui et demain. Et alors là, à nouveau, ça va changer encore un peu plus. Selon que je prends le point de vue de l'écologiste modéré ou le point de vue de l'écologiste radical, puisque pour l'écologiste modéré, d'abord, je vais calculer qu'est-ce que je vais faire. Je vais optimiser le monde. Donc, je vais dériver la croissance asymptotique. Là, je mets simplement asymptotique, mais je peux la trouver à chaque période. La croissance asymptotique qui est optimale. Si je suis l'écologiste modéré, elle est de la forme G étoile égale R moins delta sur sigma prime. C'est la formule habituelle dans un monde où il n'y a pas d'externalité, dans un monde où il y a un seul bien. Et c'est la formule qui fait écho à celle de tout à l'heure. G étoile sigma prime égale plus delta égale R. Je retrouve cette formule de tout à l'heure. Le taux écologique asymptotique, lui, est égal à B étoile 1 moins 1 sur sigma prime sigma R plus 1 sur sigma prime sigma delta. Alors, à nouveau, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il est nettement plus faible. Alors, ça dépend quelle valeur de sigma prime je vais prendre, mais si je prends sigma prime sigma tel que sigma prime sigma soit un peu plus grand que 1, ça va être à peu près égal à 0, le taux d'actualisation écologique. Avec un delta extrêmement faible aussi. Alors maintenant, si je suis l'économiste radical, je vais changer complètement mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que la croissance asymptotique va être différente, G étoile égale sigma à R moins G, moins delta, pardon. Et le taux écologique asymptotique, encore à nouveau, il va être delta. Alors en fait, vous allez dire, je suis schizophrène, il va falloir que je choisisse. Ben, je vais dire, je n'ai peut-être pas trop de problèmes pour choisir, parce que je vais regarder ces taux d'actualité. Je vais prendre le cas dans lequel sigma prime égale 1,5, sigma égale soit 0,8, soit 1,2, delta égale 0,1, et R égale 4%. Donc le taux d'intérêt standard, il est de fixer à R à 4%, c'est une donnée technologique. C'est le taux auquel je peux transférer de la production entre les périodes T et T plus 1 à n'importe quelle échelle. Et puis là, j'ai fait passer le taux d'actualisation écologique dans chacun des deux cas. Si je suis l'écologiste modéré, c'est le diagramme du bas. Voilà, c'est le diagramme du bas. Alors là, vous avez le temps, 0, 50, 100 ans, 150 ans, 200 ans, 250 ans. On n'a pas peur de regarder à long terme. Et donc, on a calculé le taux d'actualisation écologique en fonction du temps. Lorsque je suis écologiste modéré, avec ceci. Et vous voyez, donc, on passe de 1% à 20%, et on converge vers, je n'ai pas le... on doit converger vers 1 ou 2%. Vous faites le calcul vous-même, mettez sigma prime 1,5, 1,2. Je n'ai pas écrit là-dessus, je n'arrive pas à faire le calcul de tête. Donc ça converge vers 2%. L'écologiste radical, lui, part de plus bas, mais un peu plus de 0,50, et puis ça descend. Alors lui, ça monte, l'écologiste modéré, et lui, ça descend, le taux d'actualisation écologique. Et là, il descend évidemment jusqu'à delta, c'est-à-dire beaucoup plus bas que tout, jusqu'à 0,1. Donc oui, là, c'est 0,1. Donc, il descend jusque-là. Mais ça va très lentement. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que sur les deux premiers siècles, la différence d'opinion entre l'écologiste modéré et l'écologiste radical n'est pas si grande que ça. Si je fais une moyenne des deux taux d'actualisation écologique, j'ai quelque chose qui... C'est pas énorme, la différence est de... Ça va de 1% à 0,40. Donc, c'est pas des différences d'opinion tout à fait considérables. Bon, juste, c'est une remarque. Alors, la question que je vais poser maintenant, je vais la poser autrement. Je voudrais me rapprocher du principe de précaution. C'est-à-dire, je voudrais trouver quelque chose qui ressemble au principe de précaution. Et je vous dis, combien je dois payer... Imaginons que le niveau de la qualité environnementale soit Y, et qu'il puisse passer à Y moins E, et que ce soit un dommage irréversible à l'environnement. Combien je devrais être prêt à payer pour éviter ce dommage irréversible à l'environnement ? Eh bien, la réponse, c'est MX. Je suis prêt à payer X pour l'éviter pour moi-même, pour l'éviter à la période où je vis. Combien je devrais être prêt à payer pour l'éviter sur l'ensemble du temps, donc pour toutes les générations futures ? C'est MX. Et il y a une borne inférieure, M est supérieure à 1 sur A, où A est ceci, où A est, en fait, ce qui était dans le cas de l'écologiste modéré, le taux d'actualisation écologique de long terme. Et là, c'est vrai tout le temps. C'est vrai tout le temps. Donc A, je vous dis tout à l'heure, il était égal à peu près à 1,5%, quelque chose comme ça, ou 2%, je ne sais plus exactement. Et donc M doit être supérieur à 1 sur A. Et si le dommage irréversible a lieu à l'époque grand T, bien M est supérieur à le taux d'actualisation à l'époque grand T, le taux d'actualisation écologique, divisé par A. Donc c'est une formule assez générale. C'est-à-dire que j'ai, au fond, ce qu'est mon capital naturel, c'est ce que Keynes... C'est une perpétuité écologique. Une perpétuité pour Keynes, c'est un titre qui donne 1 euro jusqu'à la fin des temps. Combien vaut une perpétuité ? Elle vaut 1 sur R. Ici, avec R égale 4%, elle vaut 25 euros. Combien vaut une perpétuité écologique ? Elle vaut 1 sur A. Ici, A est un peu plus de l'ordre de 1%, donc elle vaut à peu près 100 fois. Elle vaut à peu près 100 si le dommage pour moi vaut 1. Et donc ça, c'est un, c'est une borne empiriquement qui est très bonne sur l'ensemble de nos données. Alors maintenant, je vais faire l'hypothèse, et je m'arrêterai là, qu'il y a une incertitude scientifique. Je voudrais me rapprocher du principe de précaution. Donc, je vais regarder un dommage irréversible à l'environnement, et je demande combien je dois payer pour éviter un dommage irréversible à l'environnement. J'ai donné une réponse, enfin, j'ai une borne supérieure, etc. Maintenant, je vais avoir incertitude scientifique. Alors, j'ai supposé que le dommage irréversible à l'environnement va avoir lieu dans de grandes périodes, mais je pourrais le faire avoir lieu maintenant, avoir lieu dans de grandes périodes. Et où est l'incertitude scientifique ? Bien, je vais faire une hypothèse un peu grande, un peu lourde, c'est que je ne sais pas si l'écologiste radical ou l'écologiste modéré a raison. Donc, je ne suis pas sûr de qui je suis. Hein. Je mets une certaine probabilité au fait que l'économiste radical ou l'économiste modéré a raison. Alors, si l'économiste... Alors, maintenant, ça va compter, donc je ne pourrais rien faire. Et je l'apprendrai le jour de la catastrophe irréversible. Hein. Je verrai si l'économiste radical ou l'économiste modéré a raison. Et donc, j'apprendrai si sigma est plus petit que 1 ou sigma est plus grand que 1. Là, je suis en cas d'incertitude scientifique. Et la question de combien je devrais dépenser pour éviter cette catastrophe dans un siècle ou dans grande année, se pose sous la règle de l'incertitude. Qu'est-ce que ça voudrait dire, le principe de précaution ? Alors, ce que vous voyez bien, avec les formules précédentes, je sais combien je devrais payer pour l'éviter dans un siècle si je suis écologiste modéré et si je suis écologiste radical. En fait, j'ai j'ai une borne inférieure qui est donnée par la même formule et qui donne des chiffres différents si je suis économiste modéré ou économiste radical. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si je ne sais pas ? Je l'apprendrai seulement dans un siècle. Ben là, on est tout à fait dans la logique du principe de précaution. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Alors, la réponse... Alors là, j'ai les équations, mais c'est simplement le... La réponse est qu'on a un principe de précaution fort. On a un coefficient petit m, qui est le coefficient de multiplication entre ce que je suis prêt à payer aujourd'hui pour moi et ce que je suis prêt à payer pour éviter ceci. Alors là, je fais abstraction du taux d'actualisation écologique. Il faudrait l'actualiser avec le taux d'actualisation écologique plus faible que ça. Et ce coefficient m dit que si je suis sûr que... l'écologiste radical a raison. Hein, ça, c'est la probabilité que l'écologiste radical ait raison. Si je suis sûr, je dois payer pour éviter cette catastrophe aujourd'hui 250 fois ce que je suis prêt à payer pour moi, pour l'éviter pour ma génération. C'est considérable. Naturellement, si je suis sûr que l'économiste radical a tort, c'est-à-dire que la probabilité qu'il ait raison est de zéro, alors là, je serais prêt à payer seulement 25 fois ou 20 fois ce que je suis prêt à payer pour moi pour l'éviter à toutes les générations. Si ça prend place à la période grand T, actualisé au taux d'actualisation écologique à la période grand T, mais le taux d'actualisation écologique étant beaucoup plus faible, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit cette courbe, hein, cette courbe obtenue par... on n'a pas de vrai théorème. On a un théorème, mais cette courbe est obtenue par simulation, hein, de l'optimisation. Ce qu'on voit, c'est que dès qu'il y a plus de 20% de chances que l'écologiste radical ait raison, il faut faire comme s'il avait raison de toute façon. Et moi, j'aime bien ce résultat parce que je trouve que c'est le seul justification du principe de précaution qui me convainc, enfin, qui me convainc jusqu'à un certain point. Mais voilà, donc on en est... Oui, alors là, je vais le passer. Hein. J'ai essayé de faire un petit exercice sur combien je devrais être prêt à payer pour éviter pour faire une politique climatique rigoureuse. Mais ça nous amènera un peu trop loin parce qu'il y a pas mal de discussions en amont que je ne vais pas faire. Et par ailleurs, ce que je fais ne s'applique pas strictement à la politique climatique, hein, qui n'est pas... La qualité du climat n'est pas uniquement un bien collectif. Hein, pour une partie, c'est un bien privé. Les effets sur l'agriculture ont des effets sur les biens privés. Il y a des effets sur la migration, c'est du bien collectif, mais malgré tout pas universel, etc. Donc le bien que j'appelle ici bien environnemental ne peut être identifié à la qualité du climat. Mais il y a évidemment beaucoup de point de jonction entre cette réflexion et la réflexion sur la qualité du climat. Voilà, ben je crois que je vais. Je suis à peu près dans les temps. Hein. J'étais peut-être un peu trop vite. Ben, j'ai quand même profité pour faire un peu de publicité pour. Vous voyez, ça, je vous ai parlé de Nicolas Stern, donc vous voyez sa photo. Ça, c'est un livre que j'ai, qui date de 2005 ou 2006, avec Henri Tulkins à MIT Press. Et ben, ça, c'est d'autres choses, hein, sur éthique et changement climatique, et pour une politique climatique globale. Voilà, je vous remercie.